Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est un jour où nous nous réunissons, évidemment tous les sabbats, pour réfléchir, parler de la communion fraternelle à propos de quelque chose que nous ne mettons probablement pas au premier plan de nos préoccupations. Il y a peu de choses dans notre marche chrétienne qui donnent à réfléchir, mais qui sont en même temps aussi électrisantes que cette simple déclaration, Dieu t'a appelé. Ces quelques mots, quatre mots, expliquent pourquoi vous êtes assis sur les chaises que vous occupez aujourd'hui. Pourquoi vous faites, croyez, marchez, pensez, luttez dans tous les aspects de votre marche chrétienne. Parmi les milliards et les milliards de personnes qui ont vécu au cours des 6000 dernières années, Dieu vous a appelé. Et il y a tant d'éléments qui expliquent pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, ce qu'il fait pour cela, son plan quant à la raison pour laquelle il vous a appelé, moi, nous tous, la vérité à laquelle il nous relie, l'objectif que vous et moi avons d'entrer dans la famille de Dieu et d'en faire partie. Encore une fois, il s'agit de quatre mots très puissants, qu'il est difficile d'assimiler. Certaines affirmations de la Bible sont faciles à dire, faciles à comprendre au niveau de la compréhension de la lecture, mais il est presque impossible d'en saisir véritablement le sens. Faire partie de la famille de Dieu, comprendre le plan qu'il a établi pour nous. Alors que vous écoutez ce message, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Nous faisons partie de ce tremplin, de ces étapes du plan de Dieu. Mais être membre, membre potentiel, membre, assis, jeune, quel qu'il soit, dans l'Église de Dieu, ce n'est pas un exercice passif. Ce n'est pas comme si nous payions un certain montant par mois et que nous étions membres du YMCA. Je peux venir ou pas, je vais payer ce montant. C'est un exercice passif. Vous êtes peut-être membre de Kosciuszko. Quelles que soient les adhésions que vous avez dans la vie, beaucoup d'entre elles sont beaucoup plus passives. Vous pouvez les utiliser ou non. Si vous avez un abonnement à Netflix, ce mois-là, vous pouvez regarder Netflix et non. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Chaque jour, nous devons exercer ce que nous sommes. Et puis, à un certain moment, une fois que vous êtes invité, en grandissant dans l'Église, vous arrivez à un moment où vous décidez, vous savez quoi? J'ai besoin d'être baptisé. Je suis prêt à être baptisé. Je vais m'engager dans ce mode de vie. Je veux suivre ce chemin pour le reste de ma vie. Le pasteur parlera avec vous et vous conseillera pour s'assurer que vous comprenez la décision que vous prenez. Il s'agit de prouver trois choses. En fait, trois questions sont posées lors du conseil baptismal. Premièrement, Dieu existe-t-il? C'est fondamental, élémentaire, mais encore une fois, c'est énorme. Si vous ne prouvez pas que Dieu existe, vous ne pouvez pas passer à la question suivante. La Bible est-elle la parole de Dieu ou la parole de Dieu? Dieu existe-t-il? La Bible est-elle la parole de Dieu? Il faut prouver ce livre. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas n'importe quel autre texte que vous pouvez trouver dans le monde et qui vous réduit au Dieu chrétien, n'est-ce pas? Vous commencez par vous demander s'il existe un être tout-puissant. En gros, la plupart des gens dans le monde diront qu'il y a une puissance supérieure. Mais il faut ensuite restreindre la question à la Bible et à ce que cela signifie de prouver la Bible. Ensuite, la dernière question que vous devez prouver et étudier lorsque vous êtes appelé ou lorsque vous vous préparez au baptême est la suivante. L'Église de Dieu restaurée est-elle la seule vraie Église de Dieu? Trois grandes questions, chacune ayant une portée à la fois énorme et plus petite, et, encore une fois, axée sur l'endroit où vous allez être. Au cours de ce sermon et des deux suivants, nous allons examiner ces trois questions. Nous allons revenir au fondement de ce que cela signifiait lorsque vous étiez en train de prouver le baptême ou que vous le faites peut-être aujourd'hui. Mais nous allons le faire dans l'ordre inverse. Parce que lorsque vous étudiez la possibilité d'être baptisé, vous devez construire les fondations. Dieu existe-t-il? La Bible est-elle sa parole? Et ensuite, est-ce que cette église est la sienne? Ainsi, vous construisez jusqu'à prouver où se trouve la véritable église parce que c'est l'organisation dans laquelle vous voulez que votre baptême ait lieu. Vous voulez que qui exerce un ministère dans la véritable église de Dieu vous baptise, pas dans une autre organisation, pas dans une église catholique ou une église protestante ou un groupe dissident. C'est donc à cela qu'il faut s'atteler. Ironiquement, cette dernière question est celle que les gens perdent en premier. Les gens peuvent se demander où se trouve la véritable église ou ce qu'elle est, mais nous continuerons à dire que la Bible est sa parole et que Dieu existe. Les gens peuvent s'éloigner complètement du christianisme et continuer à dire qu'il y a un Dieu. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que nous oublions d'abord ce qu'est la véritable Église. Dans le premier de ces trois sermons, nous allons donc nous concentrer sur cet élément, cette question que vous devez prouver. À la fin de cette journée, j'espère que vous serez mieux équipés pour répondre à votre appel et que vous comprendrez à quel point l'Église de Dieu restaurée, est cruciale pour répondre à cet appel. Un peu d'installation parce qu'il est important de réaliser à quel point le fait d'être ici, d'être appelé, on ne se concentre pas encore sur l'organisation d'être appelé est unique et spéciale. Revenons donc en arrière. Revenons au livre de Jean, au chapitre 6. Il ne s'agit pas d'un simple sermon doctrinal. Il est plus complet que cela, je l'espère, et montre de nombreux éléments. Je pourrais m'étendre bien plus longtemps que je n'ai le temps de le faire aujourd'hui sur tous les éléments différents qui parlent de notre appel lorsque nous sommes baptisés et qui prouvent où et comment nous devrions être nourris. Jean chapitre 6, nous commencerons au verset 43. Quelques versets de base ici, le verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi. Personne, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour, comme il est écrit dans les prophètes. Et ils seront instruits par Dieu. C'est pourquoi tout homme qui a entendu et s'est instruit auprès du Père vient à moi. Nous sommes attirés. Cela signifie attirer vers l'intérieur, pousser, conduire. Dieu le Père vous a attiré. Vous a poussé, vous a conduit au Christ. Tout comme il y a des étapes pour prouver l'existence de la véritable Église, il y a des étapes dans votre appel qui vous rapprochent de plus en plus de l'endroit où vous devriez être nourri. La première étape, c'est le Père qui vous attire vers Christ. C'est personnel et puissant. Celui des deux êtres qui a créé l'ensemble de l'univers vous a choisi. Frères et sœurs, faites-en une affaire personnelle. C'est l'un de ces moments où, oui, concentrez-vous sur vous-même. Je vous ai choisi. Passons à Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens chapitre 1, excusez-moi, nous commencerons au verset 4. Éphésiens, chapitre 1, revenez à la page précédente. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 4, « Comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » J'ai dit cela rapidement, mais arrêtons-nous et lisons cela. « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Avant que l'univers ne soit créé, Dieu vous a donc choisi. Je ne peux même pas imaginer comment il a fait cela. Il a regardé à travers les générations, à travers le temps et l'espace, pour déterminer qui vous seriez ici aujourd'hui. La fondation du monde, c'est que nous soyons saints et irréprochables devant lui, dans l'amour. Verset 5. nous ayant prédestinés ou prédéterminés à l'adoption ou à la filiation par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous allons automatiquement recevoir le salut. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Et c'est ce que la prédestination fait typiquement mal dans le christianisme professant, c'est-à-dire que, oh, c'est un fait accompli que nous allons être au ciel ou quel que soit leur objectif particulier. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit, non, je vous ai choisi pour faire partie de mon Église. Et ce que nous faisons de cet appel, c'est à nous de le faire. Nous prenons cette décision après l'avoir reçue. Nous marchons, nous grandissons et nous nous développons, ou bien nous nous flétrissons, nous nous fanons et nous mourrons. Mais cet appel est personnel, il est délibéré, il n'est pas accidentel, il n'est pas occasionnel. Frères et sœurs, cela devrait donner à réfléchir et électriser que le Père nous ait choisis, vous et moi, pour faire partie de ces 144 000 que nous voyons juste devant nous. Mais ce n'était pas seulement une affaire de Nouveau Testament. Non, ce n'était pas le cas. Et donc, alors que nous construisons davantage sur cet appel, ce n'était pas seulement le Nouveau Testament. Allons à Ésaïe, Ésaïe 55. Dieu l'a toujours voulu. Ésaïe 55. Cela a toujours été son but. Verset 6. Ésaïe 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur. Il aura pitié de lui et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Nous lisons souvent le verset suivant sans comprendre que vous pensez au contexte, mais il pardonnera abondamment, il cherchera Dieu, il appellera. Verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Nous ne comprenons pas vraiment comment, quoi, et toutes les subtilités de la pensée de Dieu. Est-ce que nous l'apprenons avec le temps? Est-ce que nous en avons une meilleure compréhension? Oui. Nous voyons la volonté de Dieu, nous voyons comment Dieu agit dans nos vies et avec les autres. Mais en fin de compte, ses pensées ne sont pas les nôtres. Si nous disons le contraire, c'est comme si nous disions qu'un enfant de 3 ans a les mêmes pensées qu'un homme de 50 ans. Elles sont tellement différentes que cet enfant de 3 ans ne pourrait pas comprendre tout ce qui se passe dans l'esprit de l'homme de 50 ans. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de 3 ans. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre ce que Dieu. Comment nous a-t-il choisis avant la fondation du monde? Je n'en sais rien. Nous ne le savons pas. Nos pensées ne sont pas les siennes. Mais il t'a appelé, il m'a appelé, il a appelé chacun de nous et il a toujours voulu que les gens lui obéissent. Depuis le jardin, il voulait qu'Adam et Ève lui obéissent pour qu'ils puissent avoir une vie joyeuse, heureuse et merveilleuse. Il pourrait manger de l'arbre de vie et connaître toutes les bénédictions qui en découlaient, en fin de compte, la vie éternelle. Mais les humains sont des humains et nous sommes très doués pour tout gâcher. Bon, revenons en arrière. Allons à Romains. Nous continuons à construire sur cette base. Quand on est appelé, on ne peut pas rester sans rien faire. Le livre des Romains, chapitre 12. Vous et moi ne pouvons pas rester assis. Romains 12, commencez au verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Il est raisonnable pour nous de nous sacrifier, de sacrifier nos corps, nos vies, notre temps, parce que Dieu, encore une fois, nous a appelés. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être changés, transformés, devenir quelque chose que nous n'étions pas au moment de notre baptême. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, quelque chose a changé en nous. Nos cœurs de pierre sont brisés et nous avons maintenant un cœur de chair. Nous avons la capacité de changer, et Dieu l'attend parce que, encore une fois, vous avez été appelés avec l'anticipation, l'attente que vous et moi grandirons en caractère, construisant nos vies et nos perspectives, nos esprits comme ceux du Christ, comme ceux de Dieu le Père, pour faire partie de leur famille. Nous devons nous détourner de ce que nous avions l'habitude de faire. Nous devons nous réorienter et dire, « D'accord, c'est le chemin que je suis maintenant. C'est ainsi que je dois marcher. C'est ce que je dois faire. » Cela fait partie de l'appel. Cet appel est unique, mes frères, mais c'est le premier pas. C'est le travail de Dieu avec vous. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la véritable Église, ni que je devais être dans une Église, ni que je devais comprendre quoi que ce soit, ni que la Bible était la parole de Dieu lorsque j'ai été appelé personnellement pour la première fois. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un Dieu. J'ai étudié l'ADN. Je me suis penché sur la question. J'ai réalisé que c'était l'un de ces moments où l'on se dit, « Oh, je suis dans le pétrin maintenant parce que je viens de prouver accidentellement et par inadvertance, manifestement sous l'impulsion de Dieu, que Dieu existe. » Je n'avais aucun moyen de m'en sortir, mais je n'avais aucune idée de ce que je devais faire pour passer à l'étape suivante. C'est pourquoi j'ai étudié la religion. J'ai étudié le taoïsme et l'islam, ainsi que diverses autres formes de religion, de philosophie et de bouddhisme. Je savais qu'il y avait un Dieu. On ne pouvait pas le réfuter, mais je ne savais pas quelle était l'étape suivante. Votre appel est donc cette première étape où il y a un Dieu et où il me tire vers quelque chose. Il me révèle la vérité. Et cela peut être aussi simple que de prouver qu'il existe pour moi, de ne pas comprendre d'autres vérités de n'importe quel livre, en particulier la Bible. Mais avec le temps, vous, moi, je, nous devons tous nous transformer. Passons au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Deuxième chapitre de Philippiens, chapitre 2, verset 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà qui résume à peu près tout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en tout lieu, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence. Ainsi, même si le ministre n'est pas là, vous avez besoin de lui, c'est essentiel. Pas seulement en ma présence, car je suis là et je vais vous corriger, mais faites aussi ce qu'on vous a enseigné quand je ne suis pas là. Pourquoi ? Le verset continue. Nous devons tous travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Vous ne travaillez pas au salut de votre mari, de votre femme, de votre fils, de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de votre ami. Vous n'avez rien à voir avec l'élaboration de leur salut. Pouvez-vous les soutenir, leur donner de l'aide, de la force? Oui. Mais chaque être humain doit décider personnellement de suivre ce mode de vie, de choisir Dieu, de choisir ce qu'il a décidé de faire. Peu importe que vous soyez marié depuis 15 minutes ou 50 ans, vous aussi, en tant qu'êtres humains, devez choisir. Inévitablement, malheureusement, Lorsque quelqu'un s'éloigne de l'église de Dieu, c'est l'époux qui le fait, puis le mari, puis l'épouse, presque à chaque fois. Ce verset n'était pas vrai. Ma femme, on me l'a dit il y a des années, mais ma femme et moi disons parfois, si tu quittes l'église de Dieu, je ne pars pas avec toi. Je t'aime, mais je ne pars pas avec toi. Je dois travailler à mon propre salut. Et nous disons nous les uns aux autres ce que nous avons besoin d'entendre, et non ce que nous voulons nous dire. Parfois, oui, parfois en tant que mari ou femme, vous pouvez être l'épouse ou le mari, vous dites à votre partenaire ce que vous avez besoin d'entendre pour l'aider à travailler à son propre salut. Mais en fin de compte, nous devons le faire nous-mêmes. Ce n'est pas automatique. Il y a des étapes qui doivent être franchies après notre appel pour nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Passons au deuxième chapitre de Pierre. Deuxième chapitre de Pierre. Nous sommes en train de nous mettre en place. Nous n'avons pas encore vraiment parlé du corps du Christ ou de la preuve de l'existence de la véritable Église, n'est-ce pas? Bien que nous ayons un peu tâté le terrain pour voir où je voulais en venir, c'est la vocation. Ce que nous avons reçu est si crucial qu'il est important de comprendre tout ce que nous faisons en fonction de ces trois questions. Ces trois questions sont le fondement de la raison pour laquelle vous êtes assis dans la chaise où vous êtes assis aujourd'hui. Si vous perdez, en particulier la première, vous quitterez cette chaise. Vous pensez avoir trouvé quelque chose ou compris quelque chose ou mal compris quelque chose parce que vous perdez ce que vous avez prouvé au baptême. Vous êtes probablement dans le deuxième chapitre de Pierre, le premier chapitre de Pierre. Verset 8 de ce chapitre. Car si ces choses sont en vous et qu'elles abondent, tout ce qui a été décrit ci-dessus, elles font que vous ne serez ni stériles, ni infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui n'a pas ces choses est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Il a dû changer après avoir été appelé. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous à affermir votre appel et votre élection. C'est un drôle de mot. La première fois que je l'ai cherché, je crois, c'était en préparant ce message. Faire preuve de diligence a du sens. En haïtien, faire des efforts. C'est un mot très clair. Messure est un mot simple. Pourquoi le traduit-on ainsi? Il signifie stable. Cela m'a surpris, mais c'est tellement logique. Si nous faisons preuve de diligence, si nous travaillons dur et si nous rendons notre appel et notre élection stable, car si vous faites ces choses, vous ne faillirez jamais. Parce que nous ne sommes pas ballottés à tout vent de doctrine. Nous ne sommes pas ballottés lorsque les choses changent, grandissent ou se développent. Non, grâce à notre appel et à notre élection, nous l'avons rendu stable. Nous sommes sur une base. Nous avons répondu à ces trois questions et nous les avons prouvées. Ensuite, grâce à ce message et à d'autres études, nous sommes revenus en arrière de temps en temps et nous avons dit, d'accord, peut-être que je devrais essayer à nouveau. Je vais le prouver à nouveau. Dieu promet la stabilité, il ne promet pas la facilité et le succès si nous sommes diligents nous-mêmes. Ainsi, comprendre l'urgence, comprendre notre appel, comprendre le travail que nous avons à faire nous conduit naturellement à trouver l'endroit ou la méthode par laquelle Dieu travaillera avec nous. À ce moment-là, vous pouvez vous imaginer que vous êtes sur ce chemin, et ce chemin commence par la compréhension de l'existence de Dieu. L'étape suivante est de comprendre que la Bible est sa parole. Je dois trouver comment il va m'enseigner. Pas nécessairement où, mais comment? Parce que vous pourriez arriver à une conclusion très tôt et dire, eh bien, il n'y a que Dieu et moi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je sais qu'il existe. Je sais que la Bible est sa parole. Je vais simplement étudier ce livre, et c'est ainsi que je serai sauvé. Cela va. Je conduirai au salut. J'irai au paradis, peu importe ce que les gens pensent dans ces cas-là. Eh bien, cela s'effondre rapidement, rapidement, à la lecture du Nouveau Testament. Passons donc au chapitre 16 de Matthieu, qui est essentiellement le Nouveau Testament lorsqu'il s'agit de l'Église, avec quelques versets de l'Ancien, mais c'est le chapitre 16 de Matthieu. Encore une fois, certains de ces versets sont vraiment, vraiment fondamentaux. Et si vous voulez continuer à étudier et à approfondir, lisez le livre sur la véritable Église, ou la seule véritable Église, ou la véritable Église de Dieu, une seule organisation ou plusieurs, la véritable Église. Nous avons donc un livre, The Splinter, qui contient de nombreuses citations de M. Armstrong. Nous avons aussi le livre sur notre véritable Église et le livre d'histoire qui aide à le prouver de façon beaucoup plus détaillée que je ne pourrais le faire en 75 minutes dans un sermon. Mais certains de ces éléments de base sont les marqueurs qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il est donc important de s'en souvenir, de revenir en arrière et de revoir ces choses. Matthieu, chapitre 16 et verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es Christ. » Christ dit, « Qui suis-je, Pierre ? » « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es béni, Simon Barjona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. La vérité vient du Père. » Comment ? Christ, dans ce cas, à Pierre. Je te dis aussi que tu es Pierre. Un petit rocher, c'est ce que signifie son nom. Et sur ce rocher, un rocher, Christ, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Frères et sœurs, c'est presque aussi profond que de comprendre que Dieu nous a appelés. Dieu nous a donc appelés, et Dieu a dit, par l'intermédiaire du Christ, je vais construire, je vais commencer, voici mon Église. C'est ainsi que je vais travailler avec les gens dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez cela, si vous êtes appelé, c'est comme si un bus vous frappait et que vous vous disiez, je dois le trouver, je dois comprendre où il est. Je dois comprendre où elle se trouve. Les portes de la tombe n'empêcheront jamais cette église d'exister. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que ces mots ont été prononcés, et les portes de la tombe n'ont jamais prévalu contre elle. L'église a grandi, s'est rétrécie, a connu des changements d'époque où les choses étaient plus compliquées, mais elle s'en est sortie de l'autre côté. Mais mon église, c'est le mot que vous avez souvent entendu, Ecclesia. Il signifie simplement une assemblée d'appelés. Il y a un groupe de personnes qui ont été appelées. C'est pourquoi l'appel est si important. Lorsque vous répondez à votre appel, vous devenez l'un de ces appelés. C'est pourquoi vous pouvez être invité comme membre potentiel de l'Église de Dieu avant d'être baptisé. Car avant même d'être baptisé, tu es appelé. Vous êtes appelé à sortir. Vous êtes en train de changer. Vous êtes appelé à quitter le monde, à changer votre vie, et finalement à recevoir l'Esprit de Dieu, parce que vous en avez besoin pour vraiment changer. Pour les enfants, c'est la même chose. Si vous êtes adolescent ou plus jeune, vous êtes appelé à sortir du monde. Vous faites partie de l'Ecclésia. Et c'est dans l'Ecclésia que les choses peuvent se gâter, n'est-ce pas? Parce que les êtres humains, encore une fois, sont des êtres humains. Pendant des générations, Israël a fait les choses les plus stupides, encore et encore et encore. Il suivait un juge. Tout le monde s'enthousiasmait et faisait des choses de Dieu. Et il se disait, « Oh, nous y voilà !» Nous allons obéir à Dieu. Et puis quelque chose arrivait, et ils cessaient d'obéir à Dieu. À un certain moment, beaucoup d'entre eux se sont dispersés, se sont perdus dans les autres nations. Lorsque vous êtes américain ou canadien, quelle que soit votre nationalité, lorsque j'ai déménagé en Amérique, ai-je cessé d'être canadien? Non. Si vous quittez le Royaume-Uni, vous ne cessez pas d'être un Britannique. Anglais? Je n'en sais rien. Je dois demander à quelqu'un qui est anglais. Un Britannique, c'est ce que nous allons faire. J'ai compris. Non. Une fois qu'on est Britannique, on est Britannique. Peut-on, avec le temps ou les circonstances, renoncer à cette citoyenneté? Oh, tout à fait. Vous pouvez perdre cette citoyenneté. Vous pouvez même faire des choses qui vous enlèvent cette citoyenneté. Il en va de même pour l'Ecclésia. Lorsque vous êtes un appelé, appelé par Dieu, vous êtes appelé. Vous êtes l'Ecclésia. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Peu importe que vous ayez déménagé dans un autre pays ou que vous soyez une scission, dans ce cas, vous êtes toujours l'Ecclésia. Est-ce ce que Dieu veut? Dieu veut-il que toutes les races soient mélangées? Dieu veut-il que tout soit lié? Bien sûr que non. Cela ne t'empêche pas d'être appelé. Nous verrons ce que nous ferons à partir de là, car c'est là que les gens s'embrouillent, parce que c'est ce que tout le monde protestant croyait. Les catholiques disaient que nous étions la véritable Église et que tous ceux qui nous avaient quittés n'étaient plus la véritable Église. Mais c'était bien pour eux, car ils voulaient faire partie de l'Église. L'Église, le corps du Christ, dont nous parlerons plus tard, était donc divisé. Les luthériens, les baptistes et les évangéliques sont tous l'Église. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'était l'Église, l'Ecclésia. Et les gens sont désorientés parce qu'ils pensent que ce n'est pas parce que je suis appelé à sortir que je dois faire partie d'une seule organisation. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait, ni ce qu'il a établi à maintes reprises. Ce n'est pas parce que les gens prennent de mauvaises décisions que Dieu est un crétin, car c'est ce qu'il fait. Continuons ici, les portes de la tombe ne peuvent donc pas prévaloir contre elles. Allons à Jérémie. Nous allons le voir. Au début, vous pouvez penser, mais si nous sommes l'Ecclésia, n'est-elle pas amorphe? Non, Dieu sait que cela peut prêter à confusion. C'est pourquoi il le clarifie. Jérémie chapitre 3, parce que vous pouvez imaginer qu'à travers les époques de l'Église, c'était un sujet qui revenait et s'estompait et revenait et s'estompait. Car est-ce que quelqu'un, à l'époque de Worldwide, quand elle avait atteint son zénith, personne n'a jamais pensé que quitter la Worldwide Church of God était un moyen d'accéder au royaume de Dieu? Non. Vous êtes tombés. Tous ceux qui se sont assis et qui ont vu, « Oh, cette personne est tombée, c'est tout », vont dans les temps de feu. C'est tout. C'était une doctrine tellement stricte dans l'Église mondiale de Dieu, qu'ils croyaient que Laodicée se développerait à l'intérieur de l'Église mondiale de Dieu. Ainsi, même Laodicée n'aurait pas été séparée de la structure de l'organisation. Comme nous le savons, la compréhension grandit et se développe. Mais c'était tellement central que c'était la pensée que l'Église de Dieu, l'Église mondiale de Dieu, contenait tous ceux qui sont convertis. C'était donc au zénith, et personne ne penserait autrement. Mais là encore, le temps, les souvenirs s'estompent. Vous êtes probablement là, Jérémie 3. Verset 14. Tournez-vous. Dit le verset 14. Enfants égarés, dit l'Éternel, car je me suis marié avec vous. Je vous prendrai, l'un dans une ville, l'autre dans une famille, et je vous amènerai à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Je vous donnerai des maîtres qui vous paîtront, qui vous nourriront de connaissances et d'intelligence. La structure de Dieu, son gouvernement, est de donner ses enfants ou ses familles et de les amener à Sion, à son Église, si vous voulez, à la seule vraie Église. C'est pourquoi nous le disons ainsi. Nous disons, la seule et véritable Église par opposition à l'Église. L'Ecclésia par rapport à la véritable Église, le corps unique, nous y reviendrons. Mais Dieu dit clairement, ce que je veux faire, c'est vous attirer chez moi, en l'occurrence à Sion, et vous donner des pasteurs ou des enseignants parce que nous avons besoin d'eux. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre ce livre incroyablement compliqué et le comprendre par eux-mêmes sont manifestement voués à l'échec. C'est pour cela qu'il y a des baptistes, des évangéliques, des catholiques et toutes les autres tendances, saveurs, textures et goûts du christianisme. Parce que quelqu'un, à un moment donné, a dit « Je ne suis pas d'accord, en fin de compte, avec la véritable Église, si vous remontez assez loin, et a essayé de le faire par ses propres moyens. Et cela a engendré ceci et cela a engendré l'autre, jusqu'à ce que nous obtenions la confusion et le chaos que nous avons aujourd'hui, et l'Église dans son ensemble, et aussi dans les groupes dissidents. » Revenons au Nouveau Testament. Jean 21. Jean chapitre 21, et verset 15. Nous allons commencer. Jean 21, 15. Lorsqu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Ainsi, celui qui allait devenir le premier apôtre, Pierre, a été instruit par Christ alors que les choses se terminaient, que Christ était sur le point de partir. Ce n'était pas, « Tu dois mettre en place cette structure, ou je dois faire ceci. » Quel était son objectif? Paie mes agneaux. Verset 16, « Paie mes brebis. » Pierre est frustré. Oui, Seigneur, je t'aime, bien sûr. Et au verset 17, il le dit une troisième fois. Pierre fut attristé par ce qu'il avait dit au Seigneur. Je t'aime. Et il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et qu'est-ce qui équivaut à l'amour dans l'esprit du Christ? Paie mes brebis. Posons une question. S'il est si important de nourrir les brebis, gardons l'analogie pratique. Je nourris des brebis, et il y a des brebis que je dois nourrir. Et il y a deux personnes à l'avant de la pièce, deux personnes, des leaders, des groupes différents, qui veulent nourrir ces brebis de choses différentes. Comment déterminer si le corps du Christ, si l'Ecclésia, s'étend partout? Qui choisit son régime alimentaire? Qui choisit la bonne nourriture? Qui doit obéir à ce que Christ a dit à Pierre et nourrir les agneaux, nourrir les brebis, parce qu'elles ont besoin d'une nourriture spécifique? Il faut une structure, le gouvernement de Dieu, pour déterminer comment les brebis sont nourries. Et en fin de compte, cette structure, comme vous pouvez le voir dans la Bible, remonte à une personne, un chef humain, dans notre cas, M. Pâques, l'apôtre, qui est vivant aujourd'hui, qui est sous Christ, qui est sous Dieu le Père, qui a un ministère sous lui pour nourrir ses brebis. C'est le deuxième mandat de notre grand mandat. La première consiste à aller vers le monde, à lui enseigner la vérité que nous comprenons. Et le second est de nourrir le troupeau. C'est aussi crucial que cela. Mais sans le gouvernement de Dieu, vous ne pouvez pas déterminer la nourriture. Je pense qu'il faut faire ceci, je pense qu'il faut faire cela. Je pense que cela devrait être cela. Non, c'est la nourriture, la parole fidèle telle que quelqu'un nous l'a enseignée. Pas en privé, pas en interprétation privée, par quelqu'un. Il faut le gouvernement de Dieu pour que cela fonctionne. Allez au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Les gens sont confus à ce sujet. C'est souvent le cas, c'est le temps, parce que nous ne le réprouvons pas. Lorsque nous ne réprouvons pas les choses, les êtres humains sont des êtres humains. Ce n'est pas pour rien que le ministère a pour mission d'amener les gens à se souvenir. Il se peut que vous soyez assis dans l'auditoire, surtout si vous venez d'être baptisé, et que vous pensiez, c'est une doctrine si simple, pourquoi faites-vous un sermon à ce sujet? Parce que vous venez de l'approuver et qu'elle est encore fraîche dans votre esprit. Mais avec le temps, les choses changent. Les gens peuvent être offensés, ou quelque chose arrive dans leur vie, ou une épreuve, où ils ne comprennent pas ceci, cela, ou l'autre de la façon dont l'œuvre de Dieu fonctionne, ou prend des décisions. Et ils cessent de se souvenir de ce qu'ils avaient déjà prouvé. Hébreux, chapitre 13, verset 17. 17. Obéissez à ceux qui vous gouvernent et soumettez-vous. Car ils veillent sur vos âmes, et ils doivent rendre compte, afin de le faire avec joie, et non avec tristesse, car cela ne vous servirait à rien. Comment se soumettre à quelqu'un qui vous gouverne, si vous avez le choix? C'est ce qui se passe si le corps est divisé, si ce sont tous les convertis partout. Comment se soumettre à une autorité, à une règle, si vous pouvez simplement aller à une autorité différente et à une règle différente ailleurs? Je n'aime pas être corrigé parce que personne ne veut être corrigé. Je peux donc aller ici où ils ne me corrigeront pas, où je peux aller. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu fonctionne. Mais cela fait du bien sur le moment parce que maintenant vous pouvez aller ailleurs et vous êtes un héros conquérant. Je suis parti parce que j'ai défendu telle ou telle absurdité, parce que c'est ce que c'est. Quand les gens partent, c'est un non-sens. Ils s'empêtrent dans quelque chose de personnel, généralement une doctrine favorite, ou un péché, et ils s'appuient sur une déclaration publique, ou du moins sur ce qu'ils disent aux gens autour d'eux, mais en réalité, c'est qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas obéir à son gouvernement. Ils ne croient pas que Dieu travaille à travers son gouvernement. C'est pourquoi c'est douloureux. En tant que pasteur, mes plus grandes joies et certaines de mes plus grandes pertes sont de voir les gens obéir, grandir, changer et évoluer vers le royaume de Dieu, et de voir les gens y renoncer pour ce qui semble être des choses si mineures. Parce que Dieu s'attend à ce que son organisation, son église, son lieu, sa seule et véritable église, son corps, soit unifié. Passons à la première épître aux Corinthiens. Suis-je en train de dire que Dieu ne peut pas travailler avec des gens en dehors de l'église de Dieu restaurée? Bien sûr que non. J'étais en dehors de l'église de Dieu restaurée lorsque Dieu m'a appelé. Il en était de même pour chacun d'entre vous qui avez été appelé en dehors du monde. Chaque personne dans l'histoire du temps qui n'a pas grandi dans l'église, Dieu travaillait avec vous avant que vous ne soyez dans son église, tout simplement. Dieu peut-il guérir quelqu'un en dehors du corps? Oui, bien sûr. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il travaille à l'intérieur du corps. Et généralement, comme je l'ai vu depuis des décennies maintenant, lorsqu'il commence à travailler, en particulier avec quelqu'un en dehors du corps, juste quelque chose de spectaculaire, c'est pour les attirer vers le corps. C'est pour attirer leur attention, les faire réfléchir, les amener à se dire, « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Ce n'est pas pour valider l'inactivité ou la désobéissance à la vérité, c'est pour les réveiller. C'est pourquoi Dieu essaie de réveiller beaucoup de gens. C'est pourquoi nous avons diffusé ces deux vidéos aux Splinters, pour voir s'ils verraient l'étonnante vérité que Dieu donne à son Église. Mais malheureusement, seul un petit nombre a répondu, Parce que c'est ce qui se passe à notre époque. Il est bon de ne pas être sous l'autorité. C'est bon de ne pas avoir à se soumettre à ceux qui sont au-dessus de vous, de pouvoir gouverner, juger et décider dans l'ère laodicéenne. 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 8. 1 Corinthiens, 8, qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, notre Seigneur. Nous sommes en communion avec Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous de la même manière. C'est à Corinthe qu'il l'a dit. Ils avaient toutes sortes de problèmes. Est-ce que cela signifie qu'ils sont allés dans d'autres endroits et qu'ils ont fondé leur propre église? Non. Ils ont pu recevoir la correction de Paul parce qu'ils étaient au même endroit. Ils la recevaient de leur ministre, de leur apôtre, parce que s'ils pouvaient aller ailleurs, je ne veux pas parler de la même manière, je ne veux pas entendre ce que Paul dit, je n'aime pas ce que Paul dit, je vais aller ici. Je n'aime pas ce que Paul dit, je vais aller ici. Non, ils étaient au même endroit, mais Paul a dit, non, 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 il ne s'agit pas seulement d'être au même endroit. L'Église de Dieu restaurée n'est pas votre ticket d'entrée dans le royaume de Dieu, purement et simplement, point final. Vous pourriez être ici et être un hypocrite, un menteur, et être simplement assis dans votre siège, le gardant au chaud. Mais je peux dire sans équivoque que si vous quittez l'Église de Dieu restaurée, votre chemin vers le royaume ne sera pas le premier. Que Dieu ait pitié de vous pour avoir appris tout ce que vous avez appris et pour avoir quitté l'endroit où vous l'avez appris. Mais c'est pour cela que nous essayons de le prouver, pour empêcher que cela ne se produise. Il faut donc l'empêcher de s'infiltrer dans l'esprit, de douter. Mais nous parlons tous de la même chose, et il n'y a pas de division parmi vous. Mais vous êtes parfaitement unis. Parfaitement. Dans le même esprit et dans le même jugement. On ne peut pas avoir le même jugement dans des organisations différentes et concurrentes. Dieu dit donc à Corinthe, qui était en désordre, mais qui se réunissait tous ensemble, qu'ils pouvaient recevoir la correction. Imaginez, à Corinthe, si celui qui couchait avec sa belle-mère était exclu de l'Église. Il est donc exclu de l'Église. Nous y voilà. Et il est contrarié, parce que je voulais coucher avec ma belle-mère. Alors lui et sa belle-mère vont dans un groupe dissident qui est tout à fait d'accord avec cela. Eh bien, ils ne peuvent pas avoir le même esprit et le même jugement, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent obtenir le jugement qu'ils veulent. Et peut-être qu'ils vont ailleurs, et que ce groupe leur dit, non, coucher avec sa belle-mère est toujours quelque chose que nous ne tolérons pas. Alors ils vont ailleurs. Oh, non. D'accord. Finalement, ils trouveront un endroit où l'on dira, d'accord, nous sommes d'accord. Vous payez la dîme. Alors nous vous laisserons dormir avec votre belle-mère. Frères et sœurs, ce sont les échardes. Sont-elles toutes parties? Non, bien sûr. C'est ce qui rend les choses confuses pour les gens, parce qu'ils respectent les commandements, ils paient la dîme, ils respectent les jours saints, ils respectent le cadre général de ce qu'est le christianisme. Mais ils perdent la vérité. Pour moi, l'équation la plus simple que vous pouvez retenir lorsque vous regardez l'Église de Dieu restaurée par rapport à tout ce qui existe, c'est que les scissionnistes perdent la vérité. Même les gens, je connais des gens qui sont zélés, qui veulent faire ce qu'il faut, qui pensent prendre les bonnes décisions. Ils sont sincères, mais comme l'a montré l'histoire de l'Église restaurée, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont sincères, mais comme le disait M. Armstrong, ils se trompent sincèrement. Mais ils sont déconnectés de la vigne. Nous allons aborder certains aspects de cette question. Mais comme ils sont déconnectés de la vigne, ils perdent la vérité sans même s'en rendre compte. Ils font des choses qu'ils n'auraient jamais faites. Il y a donc un côté qui perd la vérité parce qu'il n'est pas connecté à la vigne. Cela signifie que l'Esprit de Dieu se perd peu à peu. L'Esprit de vérité contre l'Église de Dieu restaurée, où nous gagnons en vérité. Nous apprenons tant de choses. Tant de choses. Je ne peux que m'avancer. Mais il devait être sous le même genre. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Car d'une manière amusante, c'est une doctrine très facile. Nous lirons trois passages ici, où l'un ou l'autre, ou l'union, rend impossible toute autre chose. Et les arguments que vous entendrez dire, « Oh, eh bien, c'est juste différent à cette époque. Eh bien, désolé. C'est une interprétation privée. Dieu est le même pour toujours. Il ne change pas. Ce n'est pas différent. Les gens sont différents. Les Laodicéens qui veulent juger, gouverner et décider sont différents. Mais Dieu ne l'est pas. Donc, sa définition de tout ce que Dieu définit dans la Bible. Ainsi, si Dieu définit la viande propre et impure comme X, nous arrivons à 25 ans, et maintenant ils peuvent fabriquer de la viande de porc dans une machine. On peut donc avoir du bacon, mais ce n'est pas vraiment du bacon, c'est l'utilisation de cellules de bacon. Alors, vous savez quoi, mon Dieu? C'est un peu. C'est différent maintenant. C'est un peu différent. Je sais ce que vous avez dit, mais du porc. Mais maintenant, nous pouvons fabriquer ce semi-faux porc. Donc, ces cellules de porc qui sont répliquées, c'est un porc, mais il est cultivé en laboratoire et il est en bonne santé. Il est différent à cet âge. Quelle comparaison stupide! Parce qu'ils se disent, oh, un. Vous pensez à de la viande cultivée en laboratoire? Non. Mais deuxièmement, c'est toujours du porc. Alors, prenez cela. Mais Dieu, l'Église est différente. C'est l'âge laodicéen. Je sais que tu as défini ce que c'est, mais ta définition ne s'applique pas. Je sais mieux que toi parce que, eh bien, tu sais, je gouverne. Je juge et je décide. C'est la même chose. Les êtres humains n'ont pas le droit de changer ce que Dieu définit, tout simplement. Éphésiens 4, probablement là, Éphésiens chapitre 4 et verset 4. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous êtes appelés à une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. Il n'y a qu'un seul corps. Mais les gens s'embrouillent. Mais j'ai l'Esprit de Dieu, donc j'ai un seul esprit. Encore une fois, vous pouvez retirer les Britanniques de la Grande-Bretagne. Ils ne vivent plus là-bas. Ils ne suivent plus les lois, les statuts, les ordonnances de la Grande-Bretagne. Ils suivent maintenant les ordonnances du pays dans lequel ils se trouvent. Et jusqu'à ce qu'ils perdent cette citoyenneté, qu'ils perdent complètement l'Esprit de Dieu, ils sont toujours britanniques. C'est juste qu'ils n'obéissent pas au gouvernement auquel ils ont professé vouloir obéir. Passons à la première lettre des Corinthiens, 12. Ce passage est plus long, mais il est crucial. Le chapitre sur le corps du Christ. 1 Corinthiens 12. Pendant que nous lisons ceci, demandez-vous dans votre esprit si nous avons le droit de définir le corps du Christ différemment de tout ce que nous allons lire ici. C'est une réponse facile dans votre tête, mais si nous perdons des choses, si nous sommes confus, si nous sommes offensés, si nous ne comprenons pas, si nous traversons une épreuve, quoi que ce soit qui nous fasse dire, Non, mais est-ce vraiment l'Église de Dieu? Même si vous et moi l'avons prouvé lorsque nous avons été baptisés. 1 Corinthiens 12, et nous commencerons au verset 12. Le verset 12 de la première épître aux Corinthiens dit, de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps sont plusieurs et ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Christ est unifié avec le Père, de même le corps est unifié. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou païens, esclaves ou libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si l'on remonte dans le temps, les gens sont baptisés dans le corps du Christ. Très rarement, certains peuvent, habituellement Dieu les appelle presque exclusivement, Dieu les appelle au corps, ils peuvent être baptisés dans la scission, et ensuite ils viennent dans l'Église de Dieu. Mais les conversions ne se produisent tout simplement pas dans les scissions. De temps en temps, oui, parce que Dieu est Dieu et que nos pensées ne sont pas les siennes. Mais dans ces cas-là, lorsque des conversions se produisent, je travaille avec quelques personnes que je connais qui ont été baptisées dans un groupe dissident et qui sont ensuite venues ici. Mais souvent, ceux qui ont été baptisés dans un groupe dissident et qui sont venus puis repartis n'ont pas mis en évidence le fruit de l'Esprit de Dieu et ont prouvé ce qu'ils disaient. Verset 14. Car le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs, de sorte que le pied dira, puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. N'est-il donc pas du corps? Et si l'oreille dit, si je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps. C'est donc elle qui décide. Si ton pied, ton doigt, ta main, ton pouce décident, je ne veux plus faire partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'entre eux, dans le corps comme il lui plaît. Vous êtes assis dans le corps du Christ, à la place où Dieu vous a placé. Pouvez-vous grandir, vous développer, devenir un leader et être capable de faire plus, de servir et d'aider? Oui. À un moment donné, si quelqu'un est ordonné diacre, nommé assistant ministériel ou ancien, il est placé dans une autre partie du corps, selon le choix de Dieu. Et s'ils étaient tous un seul membre, où serait le corps? Or, il y a plusieurs membres, mais il n'y a qu'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. À plus forte raison, les membres du corps qui peuvent paraître plus faibles sont nécessaires. Les pieds ne sont pas très beaux en général, mais essayez de ne pas les avoir. Et les membres du corps qui nous paraissent moins honorables, nous les honorons plus abondamment, car nos parties les plus belles ont une grande beauté. Il y a peut-être des personnes que vous connaissez dans le chemin de Dieu qui ne sont pas belles, mais qui ne sont pas physiquement aptes et capables. Elles sont plus âgées, elles ont vécu ce mode de vie, elles ont subi les intempéries, la vie montre ses signes du temps. Mais elles font partie des vases les plus profonds dans lesquels vous pouvez puiser la connaissance et la sagesse. Car nos belles parties n'ont pas besoin. Verset 24. Et Dieu a modelé le corps ensemble, en donnant plus d'honneur à la partie qui manque. Ce qui manque à l'un, l'autre l'aide. Et si un membre souffre? Excusez-moi, 25. Il n'y a pas de schisme dans le corps. Vous voulez trouver un schisme? Prenez un couteau, ne faites pas cela. Prenez un couteau, coupez-vous le bras. Construisez un schisme. Comment cela marche? C'est comme cela que les gens se tuent. Ils se tailladent le poignet et se vident de leur sang. C'est un schisme dans le corps. On meurt. Mais ces membres doivent avoir les mêmes soins les uns pour les autres. Et si un membre souffre, tous les membres doivent souffrir. Si un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent. Or, vous êtes le corps du Christ et vous en êtes les membres en particulier. Frères et sœurs, comment cela se passe-t-il dans plusieurs organisations? Restons simples et pratiques. Si un membre de l'Église de Dieu restauré tombe malade, qu'une demande de prière est envoyée, que nous prions pour lui, qu'une carte lui est envoyée, comment les membres de Living, de United ou d'un autre groupe sont-ils au courant de l'existence de ce membre? Comment souffre-t-il avec ce membre? Et inversement, s'il se passe quelque chose là-bas, comment le savons-nous? Nous ne le savons pas, parce que c'est impossible. On ne peut pas souffrir avec ceux qui sont en dehors du corps parce qu'on n'est pas connecté. Il y a des schismes. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Il faut être dans le corps de Dieu pour pouvoir souffrir et triompher avec les autres membres du corps. Restez simple. Ne compliquez pas ce qui est un enseignement simple parce qu'il est si crucial que le corps nourrit les parties parce que c'est ainsi que vous et moi sommes nourris. Si nous sommes nourris de déchets, nous mourrons. Si vous sortez du corps, personne ne vous dit « mangez correctement ». Je contrôle votre alimentation. Mais c'est ce qui se passe ici. Même au sein du ministère, c'est beaucoup plus libre pour tous. Le siège réfléchit beaucoup à cette période de l'année où nous demandons au ministre ce qu'il voit dans cette congrégation. Que voyez-vous? Et nous nous efforçons de nourrir correctement l'Église de Dieu. Ainsi, vous et moi, un membre comme vous, quand je suis assis là, pas ici, prenons cette nourriture et grandissons. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas à l'intérieur du corps. Poursuivons avec le chapitre 12 des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, nous y sommes. Remontons d'une page pour commencer au verset 7 cette fois-ci. Mais quand l'Église nous nourrit, c'est notre mère qui nous nourrit. Nous pourrions passer beaucoup de temps à parler de l'Église comme étant notre mère et nous nourrissant. Vous pouvez rechercher ces versets par vous-même. Mais plutôt dans le chapitre 12 des 1 Corinthiens, rappelez-vous qu'il s'agit du chapitre sur le corps du Christ. Il y a quelque chose d'autre qui est un signe révélateur du corps. Au 7e verset de la première épître aux Corinthiens, il est dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour qu'il en tire profit avec tous. L'Esprit nous aide donc à profiter de la vie parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Car à l'un est donnée la parole de sagesse par l'Esprit, et à l'autre la parole de connaissance par le même Esprit. Les dons peuvent être accordés à un autre pour la foi par le même Esprit, à un autre pour le don de guérison par le même Esprit, à un autre pour l'accomplissement de miracles ou d'une amie, c'est-à-dire pour l'accomplissement d'une puissance, à un autre pour la prophétie, à un autre pour le discernement des esprits, à un autre pour les différentes sortes de langues, à un autre pour l'interprétation des langues. La manifestation de l'Esprit à l'intérieur du corps du Christ donne des dons. L'un de ces dons est la guérison. L'un de ces dons est celui des miracles. Frères et sœurs, ne tenez jamais pour acquis que Dieu accomplit un miracle dans votre vie. Il s'agit d'une protection, d'une délivrance, d'une intervention, quelle que soit la manière dont on l'envisage, qui se produit à l'intérieur du corps du Christ, qui se produit à un endroit qui n'existe pas ailleurs. Encore une fois, les individus de Dieu peuvent-ils agir? Oui, individuellement, mais pas collectivement, pas au niveau de l'organisation. Dieu travaille avec les individus comme il l'entend, parce que tous ces gens, ces frères et sœurs qui sont assis dans le groupe dissident, vous voulez qu'ils soient sauvés. Vous voulez qu'ils soient sauvés. Combien plus Dieu le veut-il? Dieu a-t-il un plan avec chacun de ces gens sur la façon dont il va travailler avec eux parce qu'ils ne sont pas venus sous son gouvernement pour pouvoir être nourris et enseignés ici? Oui, bien sûr. Nous l'avons appris. Mais jusqu'à ce qu'ils choisissent de lui obéir, ils errent dans les ténèbres. Ils pensent que c'est génial, l'amour est, oh, heureux, la joie, cela fait du bien. Mais le chemin qui semble juste à un homme est en fin de compte la fin de sa mort. Nous pensons savoir ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'organisations, pas seulement des scissions, mais dans le monde entier, des églises. Parce que quelqu'un a pensé qu'il pouvait prendre la parole de Dieu et la comprendre tout seul. Ce n'est tout simplement pas ainsi que cela fonctionne. J'allais lire quelques rapports de miracles pour nous aujourd'hui, mais vous les avez déjà lus. J'ai commencé à les chercher et je me suis dit qu'il y en avait un ce mois-ci, un autre ce mois-ci, un autre ce mois-ci. Encore et encore, mois après mois après mois, des guérisons spectaculaires, généralement des guérisons. Ce sont celles qui peuvent être les plus spectaculaires. Et ce sont celles qui sont envoyées au siège, pas celles pour lesquelles vous avez reçu une onction et quelque chose a changé. Je me souviens d'avoir oint ma femme une fois, elle a senti une chaleur dans son genou et s'est levée. Elle a dit, c'est parti. La douleur a disparu de mon genou. Cela ne se produit que dans le corps. J'ai écouté des gens parler, et vous avez probablement parlé dans les échardes, oh, je suis tombé malade et j'ai été oint. Et juste après avoir été oint, mes reniflements ont disparu. Et quelques jours plus tard, ma toux a commencé à diminuer. Et quelques jours plus tard, je me suis senti tout à fait mieux. Dieu m'a donc guéri. Non, vous vous êtes remis d'un rhume. C'est généralement ce qu'une guérison est encadrée dans les échardes. Quelqu'un se remet simplement d'un rhume. C'est la progression naturelle du corps qui s'améliore, pas ma femme qui dit, oh, j'ai chaud au genou, la douleur a disparu. Une personne a été protégée de manière spectaculaire ou un cancer a disparu. C'est l'intervention de Dieu. Notre corps peut se guérir lui-même. Il l'a fait ainsi. Mais intervenir, changer quelque chose qui n'allait pas changer, ne se fait que dans le corps, parce qu'il faut l'autorité, il faut le gouvernement, il faut un apôtre. C'est l'intervention divine qui a lieu, encore une fois, uniquement à l'intérieur du corps. Allons au chapitre 3 des Actes des Apôtres. Prenons un exemple. C'est l'une des fois où je pense l'avoir déjà fait dans des messages. Si vous avez été guéri ou avez bénéficié d'une délivrance ou d'une protection spectaculaire, votre travail, dit Timothée, est de passer par le sacrifice de la communication. Vous devez communiquer cela à votre ministre pour que cela puisse être soumis au siège comme une guérison ou une intervention ou une délivrance parce que votre expérience peut non seulement vous aider, bien sûr, à construire votre propre foi, mais aussi à construire la foi des autres. Vous pouvez amener d'autres personnes à penser, oh là là, cette personne a été guérie. Cette personne. Vous savez quoi? J'ai la foi. Je peux être guéri parce que j'ai vu ceci, cela, cela, et cette personne a été guérie elle aussi. Alors s'il vous plaît, si vous avez reçu la guérison ou l'intervention de Dieu, vous devez la transmettre. Transmettez-le à votre ministre. Nous en parlerons dans les bulletins d'annonce ou dans tout autre document, car cela renforce le troupeau. Car nous souffrons ensemble dans le corps et nous nous réjouissons ensemble dans le corps. Actes des Apôtres, chapitre 3 et verset 6. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le saisit par la main droite, le souleva, et aussitôt ses pieds et les os de ses chevilles reprirent de la vigueur. Il sauta, marcha et entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce n'est pas, il a commencé à se sentir mieux, le rhume est parti, oh, j'ai enfin perdu ce mal de tête. Non, il s'agit d'un changement spectaculaire qui ne s'explique pas. Ce sont de vraies guérisons, et c'est ce qu'elles sont. D'accord, mes frères, allons au chapitre 15 de Jean. Encore une fois, nous ne pouvons pas couvrir chaque verset aujourd'hui, mais nous pouvons en couvrir beaucoup dans le temps qui nous est imparti pour montrer tous les différents éléments qui constituent l'image globale du corps de Christ. Le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens devrait à lui seul suffire à le prouver, mais nous nous penchons sur les éléments. Vous pouvez donc faire vos devoirs, vous pouvez lire la littérature parce que vous et moi, nous oublierons ce point. C'est le premier à disparaître parce qu'après avoir perdu la véritable Église, on est coupé de la vigne. On commence à perdre l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qui se passe ensuite? Vous perdrez ce livre. Ce livre s'effacera. Et soudain, sa signification, son réalisme, sa nature littérale s'estomperont. Il deviendra plus métaphorique. C'est une analogie, c'est un principe, c'est de la vieille littérature hébraïque. Et puis, à un certain moment, une fois que vous avez abandonné le livre, vous avez perdu le lien avec Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Et soudain, les trois choses que vous et moi avons prouvées lors du baptême s'effilochent avec le temps, et vous faites comme tout le monde dans le monde, vous ne pensez pas à obéir au vrai Dieu. Jean, chapitre 15 et verset 1. Premier verset. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, dans le corps du Christ, dans la vigne, et qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte plus de fruits, c'est-à-dire qu'il nettoie, et l'agout purifie, c'est ce que signifie purger. Donc si la branche n'est pas en lui, c'est ce qui se passe, il l'enlève, il la coupe. Nous avons eu une tempête ici, beaucoup de vent en ligne droite, il y avait beaucoup de branches qui tombaient partout. Toutes ces branches étaient déconnectées de l'arbre auquel elles étaient reliées. Elles n'allaient pas pousser. Verset 3. Maintenant vous êtes purs par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, il a besoin du corps, du tronc de l'arbre, de la vigne pour le nourrir, de la nourriture qui vient des racines, du sol, de la structure, de la base, qui, si nous obéissons et travaillons à notre appel, est stable, qui monte par cette vigne, cet arbre, et, si vous ne demeurez pas dans la vigne, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Nous ne grandissons pas si nous ne sommes pas reliés au Christ. Et ce que signifie être relié au Christ doit venir de la Bible. Cela ne peut pas être ce que nous supposons, ce que nous décidons. Ce n'est pas vous et moi qui décidons de la vérité. Et une fois que nous commençons à faire cela, tout le matériel, si vous voulez, est sur la table. Plus rien n'est défini. C'est pourquoi j'ai souvent dit que si vous n'avez pas d'apôtre, vous ne touchez à rien. Même les choses qui... Disons que vous allez à n'importe quel moment de l'âge où il y a la vérité, et peut-être que l'apôtre est mort à un moment choisi par Dieu, et qu'une certaine vérité a été à moitié établie, créant une sorte de demi-scénario ici, et que cela n'avait pas tout à fait de sens. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire? Finir de l'établir. Peu importe qui vous êtes, un évangéliste ou n'importe qui d'autre, car une fois que vous n'avez pas d'apôtre, vous n'y touchez pas, vous ne touchez rien de ce qui a été enseigné. C'est le fondement de la vérité et de la connaissance de la vérité présente. La vérité présente à ce moment-là est bloquée jusqu'à ce que Dieu ait une autre ère et qu'il suscite un autre apôtre. Mais devinez quoi? Nous sommes à la dernière époque. Cela ne se reproduira plus. Sans apôtre, vous n'y touchez pas parce que la Bible est écrite de telle manière que, sans cette fonction, vous vous embrouillez. Moi aussi. Verset 5. Et dans le même temps. Commencez au verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. En dehors du corps du Christ, vous ne pouvez rien faire. Mais lentement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté comme le sarment. Et que se passe-t-il? Verset 6. Et il est desséché, c'est-à-dire qu'il meurt, qu'il perd ses éléments nutritifs, qu'il se dessèche. On les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. En fin de compte, le fait d'être déconnecté de la vigne laisse les gens morts. Alors quand vous priez et espérez que les gens viennent, priez et espérez pour le royaume de Dieu, parce que c'est la seule chose qui va sauver les gens de la perte de l'Esprit de Dieu s'ils ne se réveillent pas et n'obéissent pas à Dieu et ne reviennent pas dans son corps, parce qu'ils vont juste continuer à perdre la vérité, ils vont juste continuer à perdre l'Esprit. C'est ainsi que cela se passe. Si vous êtes ici, vous pouvez être taillé, n'est-ce pas? Vous pouvez porter plus de fruits, vous pouvez vous développer. C'est pourquoi nous avons dit que vous aviez besoin d'un ministère, d'enseignants. Sans ces enseignants, nous ne pouvons pas porter plus de fruits parce que les choses ne sont pas mises en évidence. On peut étudier la Bible et apprendre des choses sur soi-même, mais en général, ce qui se passe, c'est que nous sommes très bons pour remarquer les petites choses à changer en nous-mêmes. Il s'agit d'une sorte de travail qui consiste à faire des ajustements ici et là. Lorsque vous avez un ministère ou que Dieu inspire le régime par des messages ou par des conseils avec le ministre, il vous aide à voir les choses que vous ne voyez pas. Ils apportent de la clarté à des choses que vous ne reconnaissez peut-être pas ou apportent des conseils ou de la sagesse tirée de la parole de Dieu pour vous aider à surmonter les choses que vous voyez. C'est pourquoi vous avez besoin de ce gouvernement de Dieu. Mais encore une fois, si cela ne se produit pas sous une seule règle, un seul corps, alors il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement unique, comme l'a dit Paul, parce qu'il y aura une multitude de jugements, et vous n'avez qu'à choisir celui que vous voulez. C'est un problème qui existe depuis toujours dans l'Église de Dieu. Nous l'appelons souvent le ministre shopping. Vous allez voir un ministre, vous n'aimez pas la réponse, alors vous allez voir l'autre ministre et vous obtenez une réponse différente. Le problème, c'est que le ministère est unifié, de sorte que vous obtiendrez de l'autre ministre la même réponse que celle que vous avez eue. C'est ce qui se passe à l'intérieur du corps du Christ. Mais si je passe d'un ministre ici à un ministre là-bas, vous obtiendrez une réponse complètement différente, et elle ne viendra pas du corps. Vous n'aurez pas, encore une fois, un seul jugement. Allons à Hébreux 12. C'est là que Dieu nous met en garde. Hébreux, chapitre 12. Parce que nous allons être émondés pour produire du fruit. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Or, pour le moment, aucun châtiment ne semble être joyeux. N'est-ce pas vrai? Si vous avez des problèmes, je ne me soucie pas de savoir qui c'est et pourquoi c'est, ou cela peut être votre patron, cela peut être vos parents, peu importe, et cela peut être Dieu. Vous pourriez être corrigé par votre ministre. Il n'est jamais agréable d'être corrigé. Ce n'est pas joyeux, c'est pénible. Cependant, après cela, elle produit le fruit paisible de la justice pour ceux qui sont exercés par elle. Si vous n'êtes pas exercé, c'est différent. C'est pourquoi, relevez vos mains qui pendent et vos genoux faibles, et aplanissez le chemin pour vos pieds, afin que le boiteux ne soit pas détourné du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Lorsque nous sommes émondés, deux décisions s'offrent à nous. Soit nous l'acceptons, nous grandissons, nous développons le fruit paisible de la justice, soit nous le laissons nous détourner. Nous allons chercher des jugements différents qui nous font nous sentir mieux et qui nous disent ce que nous voulons entendre, et non ce que nous avons besoin d'entendre. Allons à Galates 5. Galates 5, et le verset 16. Le verset 16 est la suite de Galates 5. Voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit, et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et au fur et à mesure qu'il descend, il parle des fruits de la chair et de ce qu'elle produit. Au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la gentillesse, la tempérance. Contre cela, il n'y a pas de loi. Nous porterons ce genre de fruits si nous restons attachés à la vigne, si nous restons à l'intérieur du corps, et si nous pouvons avoir le même jugement, le même corps, la règle sur nous qui nous aide à porter plus de fruits. C'est ce que nous voulons, parce que ce fruit pacifique de la justice nous prépare à faire partie de la famille de Dieu. Cela nous aide, mais cela ne fonctionne pas si nous ne sommes pas à l'intérieur du corps. Et si le corps est dispersé, confus, brisé et divisé, cela ne marche pas. Et la Bible dit que ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'il en est. Chacun peut supposer ce qu'il veut, mais que dit la parole de Dieu? La parole dit que le corps du Christ est uni. Si des individus ne sont pas unis, ils ne font pas partie du corps du Christ. C'est simple. Ne vous compliquez pas la vie. Soit la Bible est vraie, soit les suppositions et la doctrine personnelle de quelqu'un sont vraies. Nous terminons avec le 1er Timothée. Encore quelques passages. 1er Timothée, chapitre 3. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. 1er Timothée, chapitre 3 et verset 14. Le verset 14 se lit comme suit. Je vous écris ces choses, espérant aller bientôt vers vous. Mais si je tarde, c'est pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, la maison, au singulier, l'Église du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. Si vous avez des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ils ne sont pas la maison de Dieu. Ils ne sont pas le corps du Christ. Ils peuvent être convertis, oui. Dieu peut travailler avec les gens comme il l'entend. Mais la Bible est sa parole, et elle ne change pas, et vous devez être le pilier et le fondement de la vérité pour être le corps du Christ. Frères et sœurs, choisissons-en un, juste un simple. Dans les scissions, ils ne comprennent pas qui est le Père. C'est une compréhension remarquable que Dieu a donnée à cette Église. Et il y a tant d'autres choses que je pourrais continuer à dire sur la vérité qui s'est développée ici. Le pilier et le fondement de la vérité sont ici. Ils ne comprennent pas qui est le Père, comment il s'inscrit dans le plan de Dieu, à quel point il a été impliqué dans l'histoire d'Israël. C'est une vérité assez importante, je le dis avec facétie. Et si vous ne croyez pas cela par rapport à quelqu'un qui y croit, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Et Dieu dit que c'est son corps, la seule vraie Église, et pas seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Jean 17. Jean chapitre 17 et verset 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour la vérité, et la vérité ne peut être définie que par des apôtres. Nous en avions un au siècle dernier, nous en avons un aujourd'hui. Le processus de compréhension, de croissance et de développement dans la vérité est-il compliqué? Oui. Est-il facile? Non. Est-il facile de se faire bouillir dans l'huile il y a des siècles? Je choisirai le chemin que nous suivons actuellement pour bénéficier de l'air conditionné, pour pouvoir déguster un bon repas, pour porter des costumes et des robes, pour pouvoir faire l'expérience de la vie en Occident lorsque nous pouvons être un peu contrariés par ceci, cela ou l'autre, parce que le processus ne dépend pas de vous, de moi ou de je ne sais quoi d'autre. Non. L'alternative est de vivre il y a 1000 ans, d'être trempé dans l'huile et de mourir pour la vérité. Mais souvenez-vous, nous grandissons dans la vérité, les échards de la perdent. Comme tu m'as envoyé dans le monde, verset 18, de même je les ai envoyés dans le monde. Et c'est pour eux que je me sanctifie, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Les réunions sociales, la camaraderie, l'amusement, nous venons d'avoir une réunion sociale ici, cela ne constitue pas la véritable Église. Ce sont des éléments, mais c'est par la vérité. La vérité est ce qui nous distingue. La vérité est ce qui constitue le corps du Christ. Et la vérité est ce qui nous donne le gouvernement de Dieu, la structure, la compréhension, les jugements, la sagesse à travers la vérité qui existe ici. Frères et sœurs, si vous êtes désorientés, rappelez-vous ce que vous savez. Vous le perdrez si vous vous déconnectez de la vigne. Les gens vous diront que ce n'est pas le cas. Vous le perdrez. Par l'autorité de Jésus-Christ, vous perdrez la vérité. J'ai vu cela se produire maintes et maintes fois. Restez connectés à la vigne. Ne choisissez pas le chemin le plus difficile. Verset 19. C'est à cause d'eux que je sanctifie, par la vérité. Verset 20. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, au fil des générations. On pourrait dire que l'on espère pour cela, et que les groupes dissidents obéiront, comprendront et feront partie de la famille de Dieu. Afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi. Peut-être un. Vous ne pouvez pas être un si vous êtes dans deux, trois, cinq ou des endroits concurrents. Et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, par l'exemple du corps du Christ, l'unique et véritable Église de Dieu, l'Église de Dieu restaurée. Frères et sœurs, vous avez reçu un tel don, et moi aussi. Dieu vous a appelé à sortir de ce monde. Il vous a choisis avant la fondation du monde. Vous et moi sommes assis dans les sièges que nous occupons aujourd'hui parce que nous avons commencé par prouver que Dieu existe. Nous avons prouvé que la Bible était sa parole, et ensuite vous et moi avons prouvé que nous étions la seule véritable Église, le corps du Christ, les individus reliés à la vigne qu'est Jésus-Christ. L'abandonner, le perdre ou s'en couper signifie en fin de compte la mort. Ce n'est pas instantané, mais en fin de compte, c'est la mort. Donc, si votre esprit s'estompe, que le temps passe et que vous commencez à douter, revenez et prouvez-le comme vous l'avez fait lors du baptême. Prouvez toutes les questions, et nous ne répondons qu'à une seule aujourd'hui, et nous en examinerons deux autres dans les deux prochains sermons. Souvenez-vous de la doctrine du corps du Christ. Souvenez-vous de ce que vous avez prouvé au baptême. Rappelez-vous qui vous nourrit. Souvenez-vous d'où vient la vérité. Rappelez-vous pourquoi vous êtes assis dans l'Église de Dieu restaurée, le corps du Christ est la seule véritable Église de Dieu.